Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 21 décembre 2021. En direct de Washington, Jean-Roger Billon
et Rosine Monet-Zero.
On commence avec les titres.
Quatre personnes ont été tuées lundi à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, lors d'une journée d'action ville morte déclenchée pour protester contre la criminalité.
Le rebelle éthiopien du Tigré, qui avait avancé ces derniers mois dans les régions voisines de l'Amara et de l'Afar, ont annoncé lundi s'être repliés dans leur région.
En Égypte, Alaa Abdel Fattah, une figure de la révolution de 2011, a été condamné à 5 ans de prison.
Ici aux États-Unis, un nombre record d'homicides a été enregistré en 2021.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Quatre personnes, dont un bébé, ont été tuées et au moins 12 blessés lundi à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, lors d'une journée d'action ville morte déclenchée pour protester contre la criminalité grandissante. Le point avec Gini Kapumbu Villa.
Des manifestants ont enflammé des pneus et dressé des barricades sur les chaussées pour manifester contre la supposée présence de policiers rwandais à Goma, fermement démentie par les autorités. La police a tiré à balles réelles et fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Les échauffourées ont fait 2 policiers tués et 2 grièvement blessés, selon le général Sylvain Ikenge, porte-parole du gouverneur militaire de la province, et 1 mort parmi les manifestants. Selon les sources hospitalières, 12 personnes ont été blessées et un enfant de moins de 1 an est mort, tué par balle alors qu'il était au dos de sa mère. La police a catégoriquement démenti les rumeurs sur l'entrée du Rwanda à Goma, ville presque jumelle à la ville rwandaise de Gisenyi. Ce qui a ravivé la colère des manifestants peu après le déploiement de troupes ougandaises avec l'aval de Kinshasa pour combattre les rebelles ADF dans le Nord Kivu.
L'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, a lancé lundi son parti Ensemble pour la République dans la perspective de la présidentielle de 2023 en République démocratique du Congo, tout en restant encore pour l'instant membre de la coalition au pouvoir. Le lancement officiel des activités d'Ensemble pour la République a eu lieu à Kisangani, importante ville du nord-est de la RDC, où M. Katumbi, tout de blanc vêtu, est arrivé hier en début d'après-midi en jet privé. Des dizaines de milliers de partisans l'ont accompagné de l'aéroport jusqu'à la place de la Poste, où il a tenu un meeting devant une foule nombreuse.
Une commission gouvernementale chargée au Burundi d'enquêter sur les massacres qui ont émaillé l'histoire de ce pays des Grands Lacs a déclaré pour la première fois lundi que ceux ayant visé l'ethnie Hutu il y a un demi-siècle se relevaient d'un génocide. Son président, Pierre Claverne d'Aïtchalié, a déclaré au Parlement que la CVR avait pu établir le crime de génocide contre le peuple Hutu en 1972 sous le régime du président de l'époque, Michel Michombero, un Tutsi.
Des témoins ont déclaré à la commission qu'en mai et juin de cette année-là, des Hutus étaient transportés chaque nuit par camion depuis la prison de la capitale administrative Gitega jusqu'aux rives de la rivière Ruvubu, où ils étaient exécutés et jetés dans des fosses. La commission est composée presque exclusivement de cadres du parti au pouvoir issus de l'ancienne principale rébellion Hutu lors de la guerre civile, et Ndayikariye était à la tête de la commission électorale du Burundi lors des scrutins controversés de 2010 et 2015.
Deux opposants béninois, Akire Kiatou Madougou et Joël Aivo, condamnés récemment à de lourdes peines d'emprisonnement par la justice, ne feront pas appel à de leur sentence, ont confirmé lundi leurs avocats. L'absence d'indépendance de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme et l'absence d'équité des juges motivent la décision de ne pas faire appel, a expliqué l'un de leurs avocats, Renaud Abodjo.
Après ces deux condamnations, les États-Unis avaient fait part de leurs graves inquiétudes quant à l'ingérence politique dans le système judiciaire pénal du Bénin, déplorant un ciblage systématique des figures de l'opposition. La plupart des grandes figures de l'opposition au Bénin ont été poursuivies par la justice et vivent désormais en exil.
Conflit en Éthiopie, les rebelles du Tigré ont annoncé lundi s'être repliés dans leur région. Ils avaient avancé ces derniers mois dans les régions voisines de l'Amhara et de l'Afar et même menacé de marcher sur Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Les précisions avec Michel Joseph.
Nous avons décidé de nous retirer vers le Tigré. Nous voulons ouvrir la porte à l'aide humanitaire, a déclaré Getachew Reda, porte-parole du Front de libération du peuple du Tigré. Il a écrit hier sur Twitter « Nous venons de terminer le retrait de nos forces des régions de l'Amhara et de l'Afar ». M. Getachew a affirmé que le leader du TPLF, Debretsion Gebremichael, a envoyé une lettre au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour l'informer de ce repli et appeler à une cessation immédiate des hostilités. Fin novembre, les médias d'État ont annoncé l'arrivée sur le front du premier ministre Abiy Ahmed. Par la suite, le gouvernement a revendiqué plusieurs victoires. Depuis, fin octobre, les deux parties revendiquent chacune des avancées territoriales, mais les communications sont coupées dans les zones des combats, rendant difficile toute vérification indépendante. Vendredi, l'ONU a donné son feu vert à un mécanisme international d'enquête sur les exactions commises en Éthiopie.
En Égypte, une figure centrale de la révolte de 2011 a été condamnée hier lundi à 5 ans de prison. Alaa Abdel Fattah, qui était en détention provisoire, est condamné pour diffusion de fausses informations. Le point avec Abdourahman Dia.
L'information a d'abord été donnée par sa sœur sur son compte Twitter. Selon une source judiciaire, le verdict ne peut pas faire l'objet d'appel. Deux autres militants ont été condamnés à 4 ans de prison pour les mêmes charges. Il s'agit d'un ancien avocat de M. Abdel Fattah et d'un blogueur surnommé l'icône de la révolution de 2011 qui a chassé le président Hosni Moubarak du pouvoir. Alaa Abdel Fattah a déjà fait l'objet de plusieurs condamnations. Il a été emprisonné sous Moubarak, puis sous son successeur Mohamed Morsi et l'actuel chef de l'État Abdel Fattah al-Sissi. Il était en détention provisoire depuis plus de 2 ans et a déjà passé 7 ans en prison. Il avait été arrêté en 2013, accusé d'avoir organisé une manifestation illégale, provoqué une émeute et frappé un officier de police et volé son émetteur radio. Selon les organisations de défense des droits humains, l'Égypte compte plus de 60 000 détenus d'opinion. Le gouvernement dément et met l'accent sur le maintien de la stabilité dans le pays.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, plusieurs villes, grandes métropoles comme villes moyennes, ont enregistré en 2021 un nombre record d'homicides. Une spirale de meurtres née l'année dernière en pleine pandémie de COVID-19 et que les autorités peinent à endiguer. Mouhamadou Oumfa.
Philadelphie a battu un funeste record qui datait de 1990 avec au moins 535 homicides pour 1,5 million d'habitants. Celle qui est pourtant surnommée la ville de l'amour fraternel a dépassé New York et Los Angeles, les deux plus grandes villes des États-Unis. Chicago, métropole du nord du pays, a dépassé 800 homicides en 2021. Un record depuis 1994. La plupart des meurtres sont des règlements de compte et les victimes sont en grande majorité des Africains-Américains, parfois des enfants victimes de balles perdues. Selon des experts et témoins interrogés, ces violences sont causées par le contre-coup du coronavirus et des traumatismes qui l'a causé, un rebond de l'économie qui n'a pas bénéficié à tous et surtout le foisonnement des armes à feu.
Le variant Omicron est désormais largement dominant aux États-Unis, selon les autorités sanitaires américaines. Dernière illustration en date de la progression fulgurante de cette souche du COVID-19 qui suscite avertissements et restrictions dans le monde entier. Le président Joe Biden en contact voilà 3 jours avec un membre de son équipe, testé positif lundi, a lui reçu un test négatif et doit prendre la parole ce mardi face à cette vague hivernale qui s'annonce brutale.
Le président américain n'envisage pas de confinement aux États-Unis pour le moment, selon sa porte-parole. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a lancé un appel lundi à ce que 2022 soit l'année où nous mettons fin à la pandémie, appelant à lutter contre l'iniquité vaccinale, en invitant à la prudence pendant les fêtes.
La Chine, soutenue par la Russie, a bloqué lundi un projet de résolution des États-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU prévoyant un mécanisme d'exception humanitaire aux sanctions économiques imposées à l'Afghanistan.
Les États-Unis espéraient une approbation lundi de leur projet par les 14 autres membres du Conseil de sécurité pour le mettre au vote dès mardi, selon des sources diplomatiques. Après le retour au pouvoir des talibans à la mi-août, les États-Unis ont gelé près de 9,5 milliards de dollars de la Banque centrale afghane.
Et enfin, les ministres des Affaires étrangères du G7 ont exprimé lundi dans un communiqué commun leur vive inquiétude face à l'érosion des éléments démocratique du système électoral après les élections au Conseil législatif de Hong Kong. Les élections de dimanche à Hong Kong, pour lesquelles seuls les patriotes pouvaient se porter candidats, ont été marquées par une abstention record. À présent, la minute éco avec Mohamedou Moufa.
La start-up nigériane Metro Africa Express a levé 31 millions de dollars de nouveaux capitaux. À en croire le journal Financial Afrique, l'opération de financement a été menée par le fonds d'investissement Lightrock et la société internationale de capital risque Global Ventures, basée aux Émirats Arabes Unis. Selon Financial Afrique, la somme levée permettra à la start-up de financer son expansion internationale, le déploiement de véhicules électriques, d'infrastructures de recharge et de produits financiers à plus de 100 000 conducteurs. Le gouvernement camerounais a fixé les conditions d'exonération fiscale pour les titulaires de contrats pétroliers, notamment la taxe spéciale sur les revenus. Ils seront exonérés de cette taxe à condition de fournir leurs prestations au prix réel du marché selon la loi des finances 2022. Les autorités camerounaises espèrent ainsi inciter les opérateurs du secteur pétrolier à améliorer leurs prestations. Le Forum économique mondial qui devait se tenir du 17 au 21 janvier à Davos en Suisse est reporté à cause de la propagation du variant Omicron. La réunion qui réunit le monde des affaires, de la politique et de la diplomatie doit maintenant se tenir au début de l'été, selon les organisateurs.
Place maintenant au sport avec Élisée Oumpatine.
Oui, bonjour Jean-Roger et bonjour à tous. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est dans moins de 3 semaines et l'incertitude plane toujours sur son organisation au Cameroun. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, séjourne depuis ce lundi dans le pays pour s'entretenir avec les autorités. Une visite pour obtenir des garanties sur le protocole sanitaire publié la semaine dernière. Beaucoup d'hypothèses circulent à propos de la tenue ou non de la CAN qui doit commencer le 9 janvier. Pour ses premiers mots, le Sud-Africain a envoyé un message clair à 20 jours du coup d'envoi du tournoi. On l'écoute.
Nous parlerons et demain nous vous donnerons notre décision. Nous sommes très clairs quant à notre engagement à faire de la CAN un succès au Cameroun. Donc, nous vous donnerons plus de détails, mais je suis très confiant que nous travaillerons ensemble avec le peuple camerounais, qui est une grande nation de football qui a fait la fierté du Cameroun et de l'Afrique. Je suis convaincu qu'à l'issue de nos réunions, aujourd'hui et demain, nous pourrons sortir d'ici et donner à l'Afrique et au monde la confiance que nous avons l'engagement envers notre peuple au Cameroun et l'engagement pour le développement et la croissance du football en Afrique.
Des propos rassurants et suffisants pour convaincre le comité exécutif de la CAF, pas parvenu à se mettre d'accord dimanche d'acter définitivement le maintien de la compétition. Précisons que les clubs européens et le président de la FIFA, Gianni Infantino, mettent la pression afin de reporter le tournoi. Le président de la FIFA a évoqué hier à Zurich la possibilité d'organiser la CAN en automne si la réforme du calendrier mondial à partir de 2023-2024 proposée par la FIFA est adoptée. Le Suisse l'a plaidé durant une conférence de presse après un sommet sur l'avenir du football mondial où il a notamment été question d'une Coupe du Monde organisée tous les 2 ans. La FIFA envisage en effet de concentrer les matchs de qualification des équipes nationales en octobre voire mars. Et en attendant de connaître le sort du tournoi, certaines sélections affichent déjà leurs armes. Le cas de la Guinée qui ira au Cameroun avec 27 joueurs. Le sélectionneur Kaba Diawara a dévoilé la liste des joueurs en qui il place sa confiance avec des choix forts. Si on note la présence des cadres comme Amadou Diawara, Nabi Keita, Ibrahim Konté, Isiaga Sila et Martinez Kanté, en revanche, pas de François Kebano et Madi Kamara. Les deux joueurs qui ont manqué le dernier regroupement du Sili, en alimentant la controverse, ne seront pas du voyage. Le technicien guinéen repart clairement sur un nouveau projet avec des joueurs tels Saïdou Sow de l'AS Saint-Etienne, Akibou Kamara d'Olympiakos ou encore Moriba Kourouma du RB Leipzig. La Guinée, logée dans le groupe B en compagnie du Malawi, du Sénégal et du Zimbabwe, entamera son stage de préparation le 26 décembre prochain à Conakry avant de s'envoler 2 jours plus tard pour Kigali. Et puis du basketball pour finir, la NBA et avec vous Jean-Roger, les résultats de la nuit.
Oui, Élysée, Philadelphie a défait Boston 108-103. Les Bulls de Chicago ont pris le meilleur sur Houston 133-118. Oklahoma City a battu Memphis 102-99. Utah Jazz a dominé Charlotte 112-102. Les Clippers de Los Angeles ont disposé de San Antonio 116-92. Et dans le duel californien, Golden State a surclassé Sacramento 113-98. De nouveau avec vous, Jean-Roger Billon. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. C'est l'impasse en Libye à 3 jours de l'élection présidentielle prévue le 24 décembre. 17 candidats ont admis qu'un report du scrutin est de plus en plus probable, même si aucune annonce officielle en ce sens n'a été faite à ce stade. De nombreux responsables libyens notent l'absence d'une liste officielle de candidats et des désaccords persistants entre camps rivaux sur la base juridique du scrutin. Pour une analyse, Abdourahman Dia, adjoint à Tripoli, Jalel Achaoui de l'ONG Global Initiative, basé à Genève.
Elle n'est pas possible à tenir pour cette date. La plupart des Libyens, y compris des élites, sont au courant de cette impossibilité depuis plusieurs semaines, donc un peu plus ancien que le moment d'aveu dont vous parlez. Et je ne dirais pas que c'est une impossibilité matérielle. Je dirais qu'il s'agit d'une impossibilité politique qui s'est traduite par plusieurs obstacles. Et les problèmes de sécurité physique, même s'ils existent, ne constituent pas le premier obstacle. Le premier obstacle, c'est-à-dire la manifestation de ces sabotages motivés politiquement.
Quand vous parlez de sabotage politique, vous pensez aux acteurs, à certains acteurs ?
Oui, il y a un certain conflit d'intérêts, si vous voulez. Par exemple, un des exemples les plus frappants, c'est le président du Parlement, à Tobrouk, dans l'Est libyen. Il a vraiment déformer la loi électorale de sorte à rendre les choses plus faciles pour sa candidature à lui et ainsi que celle de ses amis comme le maréchal Haftar. Donc il y a des distorsions, si vous voulez, qui se sont traduites de manière juridique, législative, à cause du fait que la plupart des élites en charge de fonctions très importantes aujourd'hui sont aussi intéressées à candidater.
On est à 3 jours de l'élection. Vous pensez qu'elle est toujours tenable ?
Non, je répète depuis plus de 2 mois qu'elle n'aura pas lieu. Et elle n'aura pas lieu. Et je n'ai absolument aucun doute sur le fait qu'elle n'aura pas lieu en 2021.
Pourquoi la haute commission électorale n'a pas encore fait l'annonce d'un report éventuel ?
Parce que il y a une crainte d'être sali par ce rôle qui consiste à être le premier à l'annoncer, à être la Cassandre chargée de délivrer les mauvaises nouvelles. Il y a une confusion dans l'esprit des gens. Il y a d'abord une pression de la part de certains États étrangers comme les États-Unis qui continuent de faire semblant que tout va bien. Le 24 décembre a été évoqué par l'ambassadeur américain il y a quelques jours, alors que tout le monde savait déjà que c'était impossible. Il y a une peur de déclarer les choses, il y a une peur de dévoiler la nouvelle d'une manière trop abrupte. Donc on tourne autour du pot et on ne veut pas être le premier à l'annoncer et on se dit finalement les Libyens, l'opinion internationale va finir par le découvrir de fait et donc on n'aura pas besoin de faire le sale travail qui consiste à mettre les points sur les i et la barre sur les t. Donc c'est très malsain tout ça, très malsain parce que ça discrédite beaucoup de ces mécanismes qui sont essayés pour la première fois ou presque en Libye, l'exercice démocratique.
C'était Jalel Achaoui, joint dans la capitale libyenne.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le changement du climat et la nouvelle vague de fraîcheur qui s'installe progressivement à Dakar entraînent son lot de désagréments pour les personnes vulnérables, notamment les asthmatiques, les personnes démunies et celles qui dorment à la belle étoile. Les détails avec notre correspondant dans la capitale sénégalaise, Seydina Abagay.
Dans les couloirs de l'hôpital d'Al-Jam de Guédiouaï, il règne un calme plat avec des accompagnateurs préoccupés par le statut de leurs malades. Parmi ces visages, il y a Abdoulaye Fall qui amène son neveu asthmatique chercher de l'oxygène pour le 2e jour d'affilée. Par manque de moyens, il ne parvient pas toujours à acheter les médicaments de son neveu et ce dernier s'expose à des crises fréquentes.
Bon, cette situation devient précaire pour les asthmatiques vu que cette transition vers l'hiver devient un peu dur pour eux en raison de leurs problèmes de santé, de leur fragilité de respiratoire. Voilà pourquoi ça devient un problème. Ils doivent se protéger. Bon, si c'est une solution à long terme, je pense que c'est une mesure à prendre du point de vue de l'État, de voir comment subventionner ce médicament de toutes les façons pour ne pas alourdir le prix pour le dernier consommateur. Je pense que l'État doit subventionner ces médicaments-là.
Une subvention qui permettrait aux personnes vulnérables d'être mieux prises en charge, comme l'indique Loum. Trouvé sous un pont, il dort à la Belle Étoile malgré son état de santé précaire. Pour lui, une personne qui n'a pas les moyens de trouver un toit n'a pas de quoi acheter des médicaments pour traiter un asthme.
Il est clair que les asthmatiques souffrent en cette période. La maladie devient beaucoup plus compliquée pour nous qui sommes dans la rue, surtout avec les médicaments qui sont trop chers. Tout cela combiné aux difficultés de la vie, à notre situation précaire, à la cherté de la vie au Sénégal, ça devient très difficile. Et sincèrement, nous, on pense plus à quoi manger qu'à autre chose. Et c'est vraiment une situation déplorable et qui pousse les gens à avoir pitié de nous, les asthmatiques.
Du côté des professionnels de la santé, on suggère la prévention pour ceux qui ont des ressources faibles. Dr Ndiatch du CHU d'Al-Adjam conseille de mieux prendre en compte les facteurs environnementaux qui causent des dégâts importants sur la santé des personnes vulnérables.
La pollution de l'air, donc comme ce qu'on constate en ce moment précis. Maintenant, les choses à éviter, peut-être, voilà, c'est d'éviter au maximum tout ce qui a rapport avec la pollution, que ce soit la fumée ou autre, hein. Donc, d'aérer au maximum leur environnement, là où ils sont, d'aérer au maximum. Et surtout, éviter tout ce qui a rapport avec la fumée, que ce soit la fumée, la pollution ou autre, quoi. Donc, voilà, ça sont des mesures vraiment à la hygiénique qui pourront vraiment le servir.
Au Sénégal, l'arrivée du froid, souvent brusque, cause beaucoup de dégâts entre les asthmatiques qui n'ont pas de ressources pour se soigner et les sans-abri qui sont exposés en permanence. Pour ces derniers d'ailleurs, il est temps que l'État subventionne fortement leur traitement, mais en attendant cette option, les médecins conseillent la prévention. Seydina Bagaya, Dakar, pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, les populations s'activent pour faire leurs emplettes dans le cadre des fêtes de fin d'année. Les prix des jouets, des vêtements et autres cadeaux pour enfants connaissent, aux grandes dames des consommateurs, une hausse notable. Parents et commerçants se renvoient la balle quant à la flambée des prix, sans oublier l'impact du Covid-19. Visite guidée à Adjamé, dans la grande commune commerciale d'Abidjan. C'est un reportage de Delphine Boïse, notre correspondante dans la capitale économique ivoirienne.
Nous sommes à Adjamé, la commune commerciale d'Abidjan, au marché du Forum. Il y a plus de monde que d'habitude. Nous nous dirigeons vers l'étal d'une vendeuse de jouets.
Je m'appelle Galasuba Madousse. Bon, il y a pour les filles, il y a pour les garçons. Il y a poupées, il y a motos, il y a des petites voitures, il y a les pianos. Bon, alors le marché là, il n'y en a pas de. Sinon, cette année là, c'est trop lent même. À la boutique là-bas, c'est cher. Où on paye en gros là, c'est augmenté.
Aziz Haruna est vendeur de jeux télécommandés. Pour lui, les prix ont connu une hausse par rapport à l'année dernière.
Les prix ont augmenté. Tout ce qu'on vend à 1500, aujourd'hui c'est 2000. Quand les clients viennent, ils disent non, l'année passée ils ont pris ça à 1500. Aujourd'hui on dit que 2000, c'est pas non faux. Dans les poubelles, on prend 4000 en gros. Aujourd'hui on s'en dit 4500. On ne veut plus vendre ça à 4000 encore.
Attiré par l'affluence devant un magasin situé non loin du 3e arrondissement de police, toujours au marché du Forum à Djamé, nous décidons d'y faire un tour. Difficile de se frayer un chemin dans cet ambiance.
1000 francs.
C'est les vieux 1000 francs là, on vend même. Rien ne marche. C'est courage quoi, sur le marché.
Des personnes venues faire des achats nous livrent leurs impressions.
Ils ont qu'à essayer de diminuer un peu le prix pour nous. Ou un peu cher.
Bon, c'est cher, mais on fait avec.
Après Marie, il y a peu poupée. C'est Charlène.
Bon, je suis venue acheter des dinettes avec des bonhommes pour mon neveu et ma nièce. C'est selon mes moyens.
Ce parent a un autre intérêt, celui des jouets éducatifs.
Je vais essayer d'acheter des cadeaux qui vont les aider, tu vas les éduquer. Moi, en tout cas, c'est à ça que je songe.
Et d'autres parents, par contre, évoquent l'impact de la COVID-19 qui accentue la cherté de la vie.
Monsieur, quand même, cette année, le prix a augmenté. Comme Jean-Michel. Et comme raison, on nous parle du COVID.
Cette flambée n'est pas une nouveauté. Chaque année, à la veille des fêtes, les prix des marchandises grimpent sur les marchés. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Passer une bonne nuit de sommeil peut s'avérer rare dans la vie de nombreuses personnes, mais les palliatifs se multiplient de nos jours. Les bagues, les montres et même les matelas de suivi du sommeil peuvent présenter des opportunités de s'offrir de bons moments dans les bras de Morphée. Le reportage de Michel Quinn est relaté par Michel Joseph.
Bouger et tourner au lit, réveiller au milieu de la nuit, l'être humain passe environ un tiers de sa vie à dormir ou à essayer de dormir. La technologie de suivi du sommeil peut offrir une explication sur ce qui les empêche de dormir. Alexandra Zatarin est cofondatrice de 8Sleep.
Ils agissent presque comme un stéthoscope qui capte toutes les différentes vibrations aux différentes fréquences que votre corps émet tout au long de la nuit.
Un algorithme passe au crible les données de la nuit pour trouver des informations sur la température corporelle, le nombre de respirations, les renversements et la fréquence cardiaque au repos. Le lendemain matin, les utilisateurs consultent leur application sommeil pour voir comment ils se sont comportés aux différents stades du sommeil. Louisa Nicolas, neuroscientifique et coach en performance cérébrale, qui a conclu un partenariat avec 8Sleep, déclare.
La montée en puissance des trackers de sommeil comme les montres, les bagues et les matelas intelligents donnent aux gens une expérience précieuse. Vous avez eu 15 mouvements brusques. Nous avons remarqué que vous êtes levé pendant la nuit. Ainsi, vous pouvez vraiment évaluer votre compréhension. Vous pouvez décomposer votre sommeil et comprendre ce qui se passe pendant ces 8 heures.
Par exemple, selon les données de 8Sleep, les gens ne dorment pas aussi bien qu'ils le pensent avec leur animal de compagnie dans leur lit. S'ils dorment un peu plus longtemps, la qualité du sommeil est moindre. De nouveau, Alexandra Zatarin.
Un animal de compagnie dans le lit va avoir un impact probablement parce que l'animal bouge aussi pendant la nuit. Et nous voyons la même chose avec les partenaires, donc... Lorsque vous partagez le lit avec quelqu'un, les personnes qui se couchent ensemble et qui sortent du lit ensemble, elles dormiront mieux.
À l'avenir, l'entreprise espère ajouter d'autres capteurs à son matelas afin de détecter des changements dans le corps d'une personne au-delà du sommeil. Des informations qui pourraient indiquer des problèmes de santé potentiels.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
merci à Michel Joseph qui nous fait rentrer avec cette musique dans l'esprit de Noël. Ce sera tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Jean-Roger Billon et Rosine Monézéro, à la mise en onde de Michel Joseph et à la technique, Kelvin Fowler.